Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, France 2022.
France 2022 avec Isabelle Choquet, l'Europe en pleine incertitude alors que les Russes sont en train de fermer notre robinet de gaz. Peut-on s'en passer de ce gaz russe? On va poser les questions à nos experts, bien sûr, donc Isabelle. Bénédicte Tassard, la chef de notre service étranger qui nous rejoint. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
Et Martial You, le chef du service économique et social de RTL. Isabelle, d'abord, les Russes ont donc coupé le gaz, ça veut dire quoi?
Eh ben, vous vous souvenez, il y a encore quelques semaines, on se demandait s'il fallait arrêter d'importer du pétrole et du gaz russe. Eh ben, on n'a même pas eu le temps de répondre à la question. Les Russes, ils ont dit chiche. Ils ont commencé par couper le gaz aux pays qui refusaient de payer en rouble, la Finlande, la Pologne, la Bulgarie. Puis ils ont réduit les livraisons par le gazoduc Nord Stream 1, qui alimente notamment l'Allemagne, l'Italie et la France. Moscou expliquait qu'il y avait des problèmes techniques, que les pièces de rechange n'arrivaient pas à cause des sanctions contre la Russie. Bref, c'est de notre faute. Et puis depuis hier, le robinet est fermé, officiellement pour 10 jours, le temps des réparations. Mais personne n'imagine que ça va rouvrir, plus de gaz.
Isabelle, on en dépend tant que ça du gaz russe?
Non, pas tant, c'est à peu près 16% de notre consommation, donc c'est beaucoup moins qu'en Allemagne par exemple, mais 16% qui manque, c'est toujours 16% de trop.
Bénédicte, il va falloir être solidaire, nous Européens, comment ça se passe si on n'a plus de gaz?
Bon, d'abord, il y a accès aux cuves de stockage. Chacun doit remplir ses cuves jusqu'à 90%. 7 pays n'ont pas de cuves dans l'Union européenne, mais elles auront accès à celles du voisin. En cas de panne, le jour le plus froid de l'année, on a créé des groupes de risque, des groupes d'entraide, solidarité avec ceux qui n'avaient accès qu'au gaz russe. Ce n'est pas nous, mais c'est les pays baltes, la Bulgarie. Le gazoduc qui vient d'Azerbaïdjan, par exemple, qui passe par la Turquie, la Grèce, il va approvisionner la Bulgarie. Dès septembre, un autre gazoduc va de la Roumanie à l'Autriche, vous entendez? On a construit depuis quelques années un réseau, une solidarité, on investit, on continue. Solidarité aussi dans les achats, car il faut les remplir de gaz, ces tuyaux. Comme pour les vaccins en Europe, depuis quelques semaines, il y a une plateforme commune d'achat groupé pour payer moins cher, pour éviter que les producteurs de gaz ou de pétrole ne fassent du chantage à un petit pays qui ne peut pas se défendre. On négocie actuellement du gaz naturel liquéfié, du GNL, avec les États-Unis, le Qatar, le Niger, l'Égypte, jusqu'en Australie.
On est très actifs, on l'entend bien. Martial, plus globalement, on fait comment pour compenser le manque de gaz russe?
Alors, c'est ce que disait Bénédicte, on s'appuie sur le GNL, donc le gaz liquéfié. On va aussi, mais ce sera l'année prochaine, simplement apporter un, ce qu'on appelle le GNL flottant, c'est-à-dire un bâtiment qui est capable de réceptionner du gaz liquéfié au large du Havre. C'est Total Énergie qui gère ça et qui va pouvoir réinjecter ce gaz dans nos tuyaux français. Et puis on fait de la sobriété énergétique, hein. Vous avez entendu le discours depuis maintenant quelques jours et voire quelques semaines avec Total Énergie, EDF et Engie. Il faut moins consommer. Il y a le gouvernement, en fait, moi je me suis rendu compte de ça à Aix ce week-end. Ils ont réalisé il y a quelques jours qu'on avait un vrai souci pour finir de remplir l'ensemble de nos cuves d'ici l'automne. Et donc là, ils ont mis en place de toute façon un protocole. On va d'abord baisser la température et la consommation des bâtiments publics. Après, on va demander aux entreprises de faire un effort aussi à la rentrée, vraisemblablement. Là, il y a des vraies questions qui se posent. Par exemple, Saint-Gobain, qui est un gros consommateur de gaz et de gaz russe, vous ne pouvez pas arrêter ou réduire la production, sinon vous tuez l'entreprise. Donc il faut trouver des solutions. Et puis après, on demandera éventuellement aux particuliers.
On comprend qu'il faut faire vite, hein. Est-ce que c'est possible?
Possible, non, parce que c'est lourd. On parlait de l'Allemagne. L'Allemagne, ils vont mettre sans doute 2, 3, 4 ans à construire un terminal de gaz liquéfié.
Ils en construisent 3 d'ici 2 ans. Ils doivent en construire 3 d'ici 2 ans, l'Allemagne.
Alors là, ils ont commencé, eux, à réduire leur dépendance depuis le début de l'année aux Russes, hein, puisqu'ils étaient à 55% dépendants au début de l'année quand il y a eu la crise en Ukraine. Aujourd'hui, ils ont réussi à descendre à 33%, mais ils sont encore hyper dépendants. Et les 33 derniers pourcents vont être difficiles à mettre en route en quelques mois. Et puis, le gouvernement réalise aussi que nous, on sera sans doute qu'à 85% en novembre à l'automne. Et là, on va passer, je dirais, l'hiver, sans doute, si c'est pas un hiver trop rude qui vient. Mais ils ont de grosses interrogations sur 2024.
Sur l'avenir, évidemment. Isabelle, on ne peut pas s'appuyer face à tout ça sur les énergies renouvelables?
C'est l'idée, il faudrait trouver du gaz ailleurs, c'est une chose. Et puis dans le même temps, accélérer la transition énergétique pour remplacer le gaz par du solaire, de l'éolien, ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'en France, on est complètement à la traîne dans ce domaine-là. En 2020, on devait arriver à 23% d'énergie renouvelable. On a péniblement atteint 19%. On est les seuls en Europe à ne pas atteindre l'objectif qui est fixé par Bruxelles. Alors le gouvernement explique que l'écart s'est creusé pendant le quinquennat d'avant et qu'on est en train de rattraper notre retard. Mais ça pourrait suffire en temps normal, mais là, on vient de le dire, on est entré dans une course contre la montre. Alors si en plus on part avec un handicap, vraiment, c'est pas gagné.
Il y a une législation européenne qui oblige maintenant, qui va obliger les panneaux solaires sur tout nouveau bâtiment public ou commercial. Donc ça, c'est quand même énorme. Il va y avoir un allègement de la paperasse. Vous savez, aujourd'hui, pour installer une éolienne, il faut 9 ans en France. 9 ans d'autorisation. Donc, il va falloir développer aussi les pompes à chaleur chez vous. Il faut en renouvelable la puissance d'une centaine d'EPR au niveau européen. Il faut trouver ça.
Il y a un boulot énorme.
Énorme. Ah ben bah oui, mais écoutez, oui.
Et pas de temps.
C'est sûr. On estime qu'il faut 45% de renouvelables dans notre mix énergétique d'ici quelques années. Donc, il va falloir développer les panneaux solaires, l'hydrogène, le renouvelable, enfin en général.
Alors ça, c'est vrai que c'est une échéance assez longue et on cumule quand même les problèmes. Là. C'est-à-dire que vous avez l'Ukraine, certes, mais on a, nous, la moitié de nos réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. On a le risque quand même d'avoir, avec les fluctuations climatiques, un hiver pas si facile que ça et un peu froid, et on est vraiment à la bordure. C'est-à-dire que dès qu'on aura un problème supplémentaire, on sera dans le mur.
Bénédicte, le maître mot, c'est la sobriété, les économies d'énergie.
Économies d'énergie, réduire la facture énergétique. Alors, on visait 9% de moins, on vise désormais 13% de moins d'ici 2030. Il y a des campagnes que vous allez commencer à avoir pour faire baisser votre consommation, un thermostat 17 au lieu de 18. C'est 10 milliards de mètres cubes de gaz économisés, par exemple, pour toute l'Europe.
Le gaz russe au cœur de France 2022 en ce mardi 12 juillet. Merci à Isabelle Choquet, à Bénédicte Tassard et Martial You qui nous ont éclairés ce matin encore. Il est 9h moins le quart.
À la bougie, parce que ça
c'est bien
cher.
Il faut faire ça.